En ce jour de Noël, fête religieuse, prenons le temps de parler des religions, de la pratique religieuse avec ce livre, paru au Seuil il y a quelques semaines, des mille et une façons d'être juif ou musulman. Un dialogue entre Delphine Horviller, rabbin au sein du mouvement juif libéral, et l'islamologue Rachid Benzine. Celui qui anime ce dialogue sur près de 250 pages, c'est Jean-Louis Schlegel, sociologue des religions, philosophe et éditeur. Delphine Horviller, bonjour.
Bonjour.
Rachid Benzine, bienvenue, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Hier, d'abord, on a prié dans les églises, bien sûr. Quelle est votre définition de la prière, Delphine Horviller ?
Alors, je crois qu'elle est très personnelle à chacun. En fait, moi, dans la prière, je pense qu'il y a un élément de travail sur soi, de retour sur soi, un élément aussi de connexion à sa tradition, aux générations qui s'enchaînent, l'idée de répéter des textes qui ont été dits avant soi, qui seront dits après soi, créer un lien, je crois, entre les générations dans le temps.
Rachid Benzine ?
Je trouve que c'est un vis-à-vis exigeant avec soi-même et on parle à l'autre en se parlant à soi-même. C'est un moment de recueillement, mais c'est aussi un moment d'introspection avec cette exigence de vérité vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de sa propre existence.
Delphine Horviller, je reviens à ce livre, hein, des mille et une façons d'être juif ou musulman. Vous avez dit, je ne suis pas que juive et Rachid n'est pas que musulman. C'est l'esprit qui anime ce livre. Expliquez-nous.
Oui, on était surpris de voir que cette phrase, qui est somme toute assez triviale, apparaît à certains aujourd'hui comme parfois audacieuse ou courageuse dans un temps où les gens, finalement, on a l'impression qu'il n'y a plus qu'une seule façon d'être ce que l'on est, une seule façon d'être juif qui serait correcte, une seule façon d'être musulman qui serait comme il faut, que tous les juifs penseraient ou voteraient ou s'habilleraient de la même manière. Bien sûr, je caricature un peu maintenant, mais l'effet du communautarisme dont on est victime depuis quelques années, c'est un peu ça, c'est l'idée qu'il y a quelque chose dans nos identités qui est devenu monolithique. Et on oublie qu'en réalité, nos identités religieuses font partie de quelque chose d'extrêmement protéiforme. D'abord, qu'on n'est pas que juif et que musulman. Et même dans notre façon d'être juif ou musulman, eh bien, ça se décline de mille manières.
Vous avez voulu, Rachid Benzine, lier l'idée de la pluralité à la religion. C'est pas facile ?
Non, je pense qu'elle est assez facile parce que, comme vient de le dire Delphine, lorsqu'on tient compte de l'histoire des traditions, qu'elles soient juives ou musulmanes, on voit d'abord cette idée de la pluralité. Simplement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a des assignations communautaires à résidence de part et d'autre religieuse, que ce soit les fondamentalistes, par exemple, à l'intérieur de nos traditions religieuses, qui ont tendance à ne réduire les gens qu'à une seule expression et à leur seule expression comme étant authentique, mais la société française aussi, dans la manière dont elle désigne cette partie de la population. Moi, je regarde simplement sur la question de l'immigration maghrébine, c'est-à-dire que dans les années 60-70, c'était une définition économique. Ensuite, avec les années 80, notamment la marche pour l'égalité, on était l'idée des beurs, c'est-à-dire une assignation ethnique. Et aujourd'hui, ces mêmes Arabes sont devenus des musulmans, c'est-à-dire une assignation religieuse. Et donc, il faut s'interroger sur la manière dont on nomme ces gens à travers l'histoire.
Comment expliquez-vous que ce livre, votre livre, ce dialogue, que ce livre surprenne chez certains qui jugent que le dialogue entre un musulman et une juive est impossible, Delphine Horviller?
Oui, effectivement, les gens s'imaginent que ce dialogue est au point mort ou qu'essentiellement, ouais, il aurait toujours été impossible. Et puis, l'autre question que pose ce livre, à mon sens, c'est la question de qui peut parler au nom du groupe, la question de la représentativité. On a l'impression qu'aujourd'hui, finalement, plus on est, entre guillemets, barbu, plus on a de légitimité à parler pour sa tradition religieuse. On oublie, encore une fois, qu'il y a des voix, des désaccords au sein même de nos traditions. Et il faut se poser la question de, voilà, qui on invite ou qui on considère comme légitime pour parler d'une tradition.
Alors que répondez-vous à ceux qui disent « mais ces deux-là, Rachid Benzine, Delphine Horviller, qui sont-ils? Que représentent-ils? Il y a des libéraux et des conservateurs dans la religion juive, c'est aussi le cas chez les musulmans. Vous êtes donc deux libéraux, Rachid Benzine ?
Oui, on peut dire ça, mais parce que aujourd'hui, on a, comme vient de le dire Delphine, plus on a de barbe, plus on serait représentatif, parce que c'est l'idée que l'on se fait de l'orthodoxie, de la véritable religion, de la véritable expression. Mais aujourd'hui, on n'interroge jamais ces gens qui portent des barbes. Vous parlez au nom de qui ? C'est-à-dire, notamment au niveau de l'islam, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pape, et donc, du coup, à l'intérieur de l'islam, d'un point de vue traditionnel, il n'y a pas de représentants. Et ce qui est important, c'est de faire place à cette pluralité de voix dont parle Delphine. Sinon, finalement, nous sommes à chaque fois amenés sur le terrain de l'ultra-orthodoxie. C'est-à-dire que plus on serait rigoriste, plus on serait représentant de la véritable religion.
C'est quoi un libéral musulman ?
Un libéral musulman, c'est quelqu'un qui arrive d'abord à accepter l'idée de la pluralité. C'est quelqu'un qui arrive à accepter de faire dialoguer son texte avec la société et le contexte dans lequel il vit. Et c'est quelqu'un qui reconnaît d'abord l'histoire à l'intérieur des traditions. C'est-à-dire que nos traditions se sont inscrites dans l'histoire et qu'il n'y a pas de religion, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de Dieu en dehors du langage et en dehors de l'histoire des sociétés et des hommes.
Il y a plusieurs vérités dans la religion, Delphine Horviller.
Oui, il y a surtout plusieurs approches de la vérité. Et je crois que le grand danger, c'est quand on s'imagine les uns ou les autres être propriétaires de cette vérité et qu'on oublie qu'on est tous en chemin. En fait, le propre de la spiritualité, c'est quand même un nomadisme, une mise en route, l'idée qu'on n'est pas sédentaire quelque part ou propriétaire de sa vérité. Et donc voilà, cette mise en route fait partie, je crois, de notre quête. Et effectivement, je suis d'accord avec Rachid, la question de l'histoire est sans doute la place qu'on donne à l'histoire, l'un et l'autre dans nos traditions, et sans doute ce qui nous relie très fortement dans nos approches respectives de nos traditions, l'idée qu'il y a des strates historiques et qu'en réalité, à chaque époque, on a su bousculer, les dépoussiérer, réinventer, métaboliser des rencontres qu'on a faites pour produire du nouveau et des sens nouveaux.
Alors l'interprétation des textes doit-elle évoluer au fil des siècles ?
En fait, elle l'a toujours fait. Les textes ont toujours évolué dans leurs interprétations, mais le propre, on va dire, d'un certain discours fondamentaliste, c'est de faire croire qu'il en a toujours été ainsi. D'ailleurs, entre guillemets, c'est leur fond de commerce. Si vous écoutez ce discours, il ne cesse de vous dire « revenons à l'origine parce que c'était mieux avant » et on parle d'un âge d'or qui en réalité n'a jamais existé et il en aurait toujours été ainsi et qui sommes-nous pour changer quoi que ce soit. Mais la vérité historique de nos traditions, qui n'est pas d'ailleurs une façon de les nier, qui au contraire une façon de reconnaître leur richesse et leur capacité d'être encore en vie, c'est le fait qu'elles ont toujours changé, elles ont été capables de prendre en compte des contextes nouveaux pour faire traduire les textes autrement et les laisser pertinents pour leur temps.
Rachid Benzine.
Il n'y a pas de lecture sans interprétation. C'est-à-dire que même les fondamentalistes, lorsqu'ils prétendent ne pas interpréter et revenir à l'origine, c'est déjà une production historique qui date de ce moment-là. Et comme vient de le dire Delphine sur cette idée qu'il en a toujours été ainsi, c'est une fiction, c'est un mensonge que l'on se raconte parce qu'il suffit de regarder l'histoire pour se rendre compte que toutes les sociétés, tous les hommes et les femmes ont interprété ces textes à travers l'histoire. Et ces textes ne peuvent être vivants que s'ils sont dans cette capacité de produire du sens neuf. C'est pour ça que, avec Delphine, on reprend souvent cette citation de Derrida vis-à-vis de tout héritage, c'est-à-dire qu'il faut être dans une fidélité infidèle. Il faut à la fois reconnaître la tradition sur laquelle on est assis, mais en même temps être capable de lui être infidèle, c'est-à-dire l'emmener absolument ailleurs, parce qu'une tradition, c'est toujours en mouvement.
C'est une façon d'être un héritier dans une religion, ce que vient de dire Rachid Benzine, Delphine Horviller.
Oui, c'est une façon d'être héritier en général, pas juste dans la religion. Je crois que c'est vrai aussi en politique, c'est vrai dans tous les domaines. Je crois qu'être un héritier, c'est toujours se poser la question de quelle manière on réfléchit par rapport à ce qu'on nous a transmis, mais on emmène cet héritage ailleurs. Et je crois qu'il n'y a rien de pire de s'imaginer qu'on va figer, enterrer, voilà, calfeutrer ou congeler tout ce qu'on nous a transmis. En fait, c'est ça la véritable infidélité, à mon sens. Vous savez, les traditions monothéistes, les trois religions monothéistes se sont choisies comme modèle Abraham. Et c'est intéressant dans l'histoire d'Abraham, c'est que c'est un homme qui se met en chemin. C'est-à-dire qu'il naît quelque part et puis à un moment donné, il entend un appel qui lui dit « quitte la maison de ton père et va ailleurs ». Et c'est intéressant, on aurait pu se choisir comme modèle de père quelqu'un qui reste dans la maison de papa. Mais en fait, on s'est choisi comme modèle de père quelqu'un qui a envoyé bouler le sien.
Alors, ce dialogue dans ce livre, est-ce qu'on peut dire que le doute et le questionnement sont au centre de ce livre et que tout simplement, votre dialogue et ce livre, c'est un symbole de nuance, de tolérance, Rachid Benzine ?
Je dirais que...
Et c'est ce qui manque aujourd'hui ?
Je donne souvent cette citation en disant que le contraire de la connaissance, ce n'est pas l'ignorance, mais les certitudes. Et je crois qu'à partir du moment où vous avez des certitudes, vous n'avancez plus. Ce livre-là veut donner d'abord de la complexité, veut donner de la nuance, veut donner l'idée d'inscrire les croyances dans le temps des hommes. Et c'est important de ne pas massifier les musulmans, les juifs, les chrétiens, parce que ça vous empêche véritablement de prendre la complexité. Et c'est une manière de désigner le « nous » et le « eux ». C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez ces catégories massifiantes, il n'y a plus de pensée.
Un mot de l'actualité, les festivités à Bethléem en territoire palestinien ont été assombries après la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Israéliens et Palestiniens doivent-ils partager Jérusalem, une ville, deux capitales pour deux États, Rachid Benzine?
Moi, je pense que oui, c'est-à-dire que moi, j'ai l'habitude de dire que la terre appartient à Dieu, elle appartient pas aux hommes, et donc c'est important de ne pas jouer sur l'idée du sacré. Je pense que René Girard nous a mis beaucoup à travers son ouvrage l'idée du lien entre la vérité et le sacré. Et Mohamed Harkoun, qui est un historien de la pensée islamique, a mis en place ce qu'il appelle le triangle anthropologique, c'est-à-dire la vérité, le sacré et la violence. À partir du moment où vous sacralisez un endroit, vous considérez comme étant votre propre vérité, la question de la violence n'est jamais loin. Et je pense que cette ville doit être justement cette ville qui doit être partagée pour justement dire qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une expérience à vivre entre tous les hommes.
Delphine Horviller.
Moi, je regrette surtout de voir à quel point Jérusalem est instrumentalisée aujourd'hui de toutes parts. Voilà, quand Trump déclare ce qu'il déclare, il a beau déclarer quelque chose qui est une réalité administrative ou politique pour les Israéliens, Jérusalem est la capitale incontestable aujourd'hui de leur pays. Et pour autant, sans perspective, sans réflexion un peu plus visionnaire, eh bien chacun instrumentalise cette déclaration. Chez certains, ça devient presque une déclaration théologique, comme si tout à coup Donald Trump était devenu un pape ou un grand rabbin et qu'il venait confirmer là un principe théologique, et chez d'autres, ça renforce la volonté d'une contestation en toutes circonstances de la légitimité d'Israël à être là. Donc voilà, je regrette que Jérusalem soit à ce point instrumentalisée par tous.
Jérusalem peut être la capitale de l'État palestinien, selon vous ?
Il pourrait effectivement, à l'issue il faudra réfléchir de toute façon à une solution à l'avenir qui prend en compte le rapport de chacun, le rapport si particulier de chacun à cette ville qui ne change pas le fait qu'aujourd'hui Jérusalem est la capitale de l'État d'Israël.
Delphine Horviller, Rachid Benzine, des mille et une façons d'être juif ou musulman, un dialogue publié chez Seuil. Vous restez avec nous pour répondre aux questions des auditeurs d'Interactive, 01 45 24 7000. Et puis Frédéric Mettezo va nous rejoindre. Il a écouté notre entretien et il complétera avec ses questions à lui. Mais dans quelques secondes, la revue de presse, bien sûr.